Bonjour et bienvenue dans votre émission Je vois pas le rapport avec la Bretagne, votre émission de vulgarisation militante, avec vos deux animateurs préférés, Shona.
Salut.
Et moi, Morgane, et on a aussi Fléau.
Bonjour.
Voilà, tous les mois vous aurez cette émission sous le signe du ravachol, et tous les mois l'émission parlera d'un thème. Et aujourd'hui, quoi de mieux en ce début d'année et de décennie que de faire un petit récap cinéma de ces 10 dernières années. Évidemment, c'est une émission de gauche, donc on va vous parler de films engagés, de films qui transmettent un message, parce que c'est quand même mieux que juste de vous parler de films banals. Donc c'est parti, on va faire ça année par année, en commençant par 2010, par un film qui s'appelle Mammouth. On t'écoute, Fléau.
Alors Mammouth, c'est un film réalisé par Gustave Kerven et Benoît Delépine, et c'est un film où on retrouve Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, on aime ou on n'aime pas, mais il faut admettre que c'est un très bon acteur. Et ce film, je trouve qu'en fait, il tape très bien, très justement en fait, dans l'actualité des retraites. C'est un film en fait où Gérard Depardieu arrive en fait à la fin de sa vie, de la fin de sa carrière, et il se retrouve en fait à ce qu'on lui refuse de toucher ses allocations de retraite, puisque il n'est pas capable de juste justifier tous ses contrats, de justifier qu'il a travaillé durant toute sa vie. Du coup, il enfourche sa petite mobilette, qui est une mammouth, à la recherche de ses anciens employeurs qui vont du coup lui donner ses contrats. Et on peut retrouver pas mal de surprises dans ce film-là, notamment l'intervention de Ciné, le dessinateur et journaliste décédé il y a peu de temps, et aussi de Benoît Poulvord, qui joue un pauvre type qui cherche de l'or sur la plage. Donc franchement, c'est un super film. Je pense que c'est vraiment un film qu'on peut ancrer dans l'actualité politique et sociale dans ce moment.
Merci Fléau pour ça. Du coup, on reviendra vers toi après dans la suite de l'émission pour que tu nous parles d'autres films. Du coup, on va passer à 2011 parce qu'en 2010, on n'a pas trouvé grand chose. Du coup, 2011, il y a un film qui s'appelle L'exercice de l'État, réalisé par Pierre Scholler, qui raconte l'histoire d'un ministre des Transports qui ne veut pas faire passer la réforme de la SNCF proposée par son gouvernement. Donc en fait, c'est très actuel comme film en soi. C'était il y a quelques années maintenant, mais c'est très actuel et ça parle justement de réforme de la SNCF, etc. Et donc, c'est un ministre qui ne veut pas privatiser la SNCF et qui va être à contre-courant, etc. Je sais pas si c'est vraiment un film engagé à gauche ou qui dénonce ça. En tout cas, c'est un film très intéressant à regarder, ça parle de politique très bien. Il y a, comment il s'appelle, Olivier Gourmet qui joue le ministre et Michel Blanc qui joue son directeur de cabinet, et Michel Blanc est très bon dans ce rôle dramatique.
Donc pour la suite, je vais vous parler de Dans la maison, qui est sorti en 2012 par François Ozon. Donc Dans la maison, dont on a écouté un morceau de la BO qui a été réalisé par Philippe Rombie en début d'émission, donc la petite chanson que vous avez écoutée, voilà. Donc le thème s'appelle La rédaction. Donc Dans la maison, ça raconte l'histoire de Claude, qui est un lycéen passionné de lettres, passionné de littérature et surtout passionné d'écriture, qui va s'immiscer dans la famille d'un de ses camarades de classe, Raph, pour faire sa rédaction de français qu'il va ensuite donner à son professeur Germain. Donc pourquoi ce film est politique, en plus d'être très beau et très poétique? C'est un film où l'on suit justement Claude, qui vient d'une classe très populaire de la population. Il est très pauvre, il le dit dès le début du film que sa maison rentrerait environ 3-4 fois dans la maison de son camarade Raph. Claude vit avec son père, et son père est handicapé, ils ont très peu de moyens. Raph est un enfant de la classe moyenne, classe moyenne même up, hein, entre guillemets, ils ont une très grande maison, il a des parents aimants, il a des gens qui s'occupent de lui et compagnie. Ce qui est tout le contraire de Claude, et Claude du coup va s'amuser à raconter le quotidien de cette famille à travers ses rédactions, avec un ton très méprisant à l'égard de cette famille et ses habitudes, ce qui va à la fois heurter son professeur, donc Germain, joué par Fabrice Lucchini, et qui va en même temps l'intéresser, l'intriguer, et qui va finir par encourager Claude à raconter ses histoires, il va encourager Claude dans sa perversion, et c'est un film très intéressant, très beau, très poétique, la BO est magnifique.
François Ozon, c'est vraiment un réalisateur que je considère majeur en France, parce que rien que 8 femmes, c'est incroyable. Faut aimer les comédies musicales, ce qui est pas ton cas, Fléau.
Donc, en parlant justement de ces deux garçons, Claude et Raph, qui vont nouer une relation malgré tout, cela nous fait passer directement au prochain film dont Morgane va vous parler, c'est Les garçons et Guillaume à table. Morgane, je te laisse faire.
Les garçons et Guillaume à table, c'est un film réalisé par Guillaume Gallienne, qui raconte l'histoire de Guillaume. Donc, c'est une histoire inspirée de sa vie, sa relation avec sa mère, etc. Et donc, Guillaume a été éduqué un peu comme une fille, en gros. C'est-à-dire que, contrairement, il a deux frères, et ses deux frères sont éduqués comme des vrais garçons, ils vont faire du sport avec leur père, etc. Mais Guillaume est un garçon efféminé et un garçon que lui se considère comme une fille quand il est petit, et toute sa famille pense qu'il est homosexuel. Donc en fait, à travers ce film, on va découvrir le personnage de Guillaume et on va voir toute une réflexion sur la masculinité, la féminité quand on est un homme. Guillaume Gallienne est un homme, donc le personnage de Guillaume est un homme aussi, mais justement cette réflexion est très intéressante et ça vaut le coup d'être vu Les garçons et Guillaume à table, juste pour voir une vraie réflexion là-dessus en film, ce qui n'existe pas vraiment beaucoup au cinéma. On va passer à un autre film qui est dans un tout autre registre, qui s'appelle Snowpiercer, réalisé par Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, c'est celui qui a fait Parasite cette année, qui a gagné la Palme d'Or, et qui est un excellent film, et on en parlera plus tard. Donc, je vais vous résumer un peu le film. En 2014, des scientifiques tentent de refroidir la Terre suite au réchauffement climatique. Ils tentent de la refroidir avec une technologie, mais à cause d'un accident, la planète entre dans une ère glaciaire totale. 17 ans plus tard, donc en 2031, après la décimation quasi totale de la population, certains des derniers survivants sont coincés dans un train transpersonnage qui doit rouler constamment pour que les gens survivent à l'intérieur. Donc ça parle de la lutte des classes, parce que Bong Joon-ho, c'est un réalisateur qui parle beaucoup de lutte des classes. Donc en gros, il nous montre la lutte des classes comme les passagers du dernier wagon, c'est la misère totale, c'est vraiment ils doivent trimer pour survivre, etc. Mais les passagers des premiers wagons, c'est-à-dire à l'avant du train, ils sont totalement dans le luxe, dans la luxure, tout ça, ils sont riches, etc. Donc en fait, c'est vraiment un film sur la lutte des classes, comme Parasite, mais on en parlera plus tard, qui nous montre deux catégories sociales de personnes qui vont à un moment se rencontrer. Ce qui est étonnant, avec ce film, d'habitude, sur la lutte des classes, on a des films dramatiques, des films... Ken Loach, je crois, qui fait beaucoup de films dramatiques très durs, voilà.
C'est des drames sociaux.
Et du coup, là, c'est vraiment un film d'action et de science-fiction qui est limite, aux limites du thriller, vraiment très, très fort en émotion, etc. Voilà. On va passer à l'année 2014 avec Shona.
Donc en 2014, on va premièrement aborder un film dont vous avez déjà parlé. Il s'agit de Pride, de Matthew Vorschus. Pride, on vous en a parlé dans notre émission sur la lutte LGBT, que je vous invite à voir d'ailleurs sur Studio Zef si vous ne l'avez pas écouté. Enfin ouais, l'écouter plutôt. Mais bref, donc Pride, ça relate de la création d'un groupe de gays et de lesbiennes dans les années 80 du coup, pendant la grande grève des mineurs. Donc ce groupe va essayer d'envoyer du soutien aux mineurs au Pays de Galles. On le relate du coup de leur adaptation, de comment des mineurs du Pays de Galles relativement rustres vont accepter l'argent et vont accepter cette communauté LGBT du coup. C'est un film très intéressant, c'est un film très beau, avec des superbes images. C'est un film qui relate de faits qui ont été réels, hein. C'est pas un documentaire, mais c'est un film qui est très fortement inspiré d'une histoire vraie.
Bah, dans tous les cas, c'est une fiction, mais ça s'inspire énormément. Il y a des personnages fictifs, mais la plupart sont vraiment réels.
On a des personnages qui sont réels dedans, qui ont réellement existé, etc. C'est un superbe film avec une super bande-son. Donc voilà. À voir. Donc, pour rester un peu dans la lutte LGBT, etc., on va vous parler de Imitation Game, de Morten Dildum. Donc, Imitation Game, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas encore vu, parce que malgré tout, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui. Donc, c'est un film dans lequel on suit Alan Turing, qui est un mathématicien de génie, qui va créer la machine Enigma, qui permet de décoder les codes nazis durant la Seconde Guerre mondiale, invention qui a sûrement raccourci la guerre. Donc, dans ce film, on aborde l'homosexualité de Alan Turing, qui est obligé de se cacher quand on va le découvrir. Donc, Alan Turing va se faire castrer de façon chimique, alors que bah, c'est un peu grâce à lui qu'on a gagné la guerre, mais c'est un peu grâce à lui que la guerre a été remportée entre guillemets, qu'on n'a pas de nazis. Et voilà, donc on va suivre cette histoire. Alan Turing est joué par Benedict Cumberbatch, donc excellent acteur. Voilà, donc film à voir, très sympa, très divertissant. C'est pas un film spécialement dur non plus à voir, vraiment divertissant.
Pour finir avec 2014, je vais vous parler de Mommy, parce que de tous les Dolan sortis dans les années 2010, c'est pour moi le meilleur, enfin le deuxième meilleur, mais on parlera du premier plus tard. J'aurais pu parler de Lawrence Anyways et de sa réflexion sur la transidentité, qui est un film magnifique, de Tom à la ferme, pour sa réflexion sur l'emprise d'une sorte de pervers narcissique bizarre.
Tu vas les énumérer tous, c'est ça?
Ouais. Ou encore de Juste la fin du monde, pour sa réflexion sur le suicide et la dépression. Mais non, j'ai préféré parler de Mommy. C'est l'histoire d'une mère seule qui retrouve la garde de son fils. Et ce fils a des troubles du comportement assez violents. C'est intense, c'est beau, c'est choquant par moments, la réalisation et l'image sont parfaites, comme chez Dolan tout le temps. On y voit des personnages hauts en couleur et l'histoire est incroyable. Bref, ça a le mérite d'être vu au moins une fois et vraiment, c'est un film incroyable, Mommy.
Tant qu'on est sur 2014, je vais juste me permettre de rajouter un petit film en bonus. Et en plus, tu viens d'aborder le trouble du comportement, du coup, en parlant de Mommy. Je me souviens plus du réalisateur, mais il y a Le Monde de Nathan. Donc, avec Asa Butterfield, qui est un acteur qui est assez en vogue maintenant, qui raconte l'histoire de Nathan Ellis, qui est un anglais primé en mathématiques. Donc, c'est un jeune garçon autiste. Donc, on va voir son développement. On va voir comment il va réussir à se faire des amis, etc., au sein des Olympiade de mathématiques. Voilà, donc je fais un petit point dessus aussi parce que c'est un excellent film à voir. Asa Butterfield est génial comme acteur, l'histoire est très chouette, le personnage de Nathan Ellis est très intéressant à voir, etc. Donc vraiment, je conseille également Le Monde de Nathan.
Pour 2015, bah on n'a rien trouvé. Fléau, t'as rien non plus?
Bah si, moi j'ai quelque chose.
Ah, incroyable cette transition, vas-y.
Moi j'aimerais vous parler en 2015 d'un film qui s'appelait Colonia, qui est un film avec, dont je n'ai pas le nom du réalisateur en tête, un film avec Emma Watson, et c'est un film assez original, parle en fait de la dictature au Chili, donc sous Pinochet, l'enfermement des opposants politiques. Dans ce film, Emma Watson joue le rôle d'une hôtesse de l'air anglaise, qui justement est en couple avec un militant chilien d'extrême gauche, soutien de l'IND, et il se trouve bloqué au Chili suite à sa relation avec cet homme, et elle se trouve envoyée à la Colonia Dignidad, qui était une colonie catholique dont le gourou était allemand, qui avait toutes les faveurs de Pinochet à ce moment-là. C'est une colonie qui a réellement existé, qui était en fait une secte catholique ultra-violente et fascisante, qui a du coup réellement existé dans le Chili, on estime qu'elle a fait quand même énormément de morts. Et donc cette histoire raconte, à travers une histoire fictive, raconte en fait l'histoire de cette colonie, qui est une colonie pas forcément forcément très connu, qui est pas dont on a assez peu d'informations du fait des amitiés entre le dictateur Pinochet et le responsable de la secte. Et c'est un film qui est l'image est vraiment très belle et l'histoire permet vraiment de découvrir une histoire peu connue en fait de l'histoire du Chili.
On va passer à 2016 avec un film qui s'appelle Nocturama, réalisé par Bertrand Bonello. C'est un film qui parle de dado anar et nihiliste qui font péter différents bâtiments symboliques de la finance et de l'État. Je crois qu'il y a une aile du ministère de l'Intérieur, une banque, etc. Et après, ils assassinent un PDG de banque. Après tout ça, ils vont se réfugier dans un grand centre commercial et profitent de la richesse et du luxe de l'endroit. Et c'est un film français très mésestimé, qui est vraiment cool dans le fond, et ça a le mérite de le voir. Il n'a pas fait beaucoup d'entrées au cinéma, et c'est dommage. Ça parle vraiment de sujets qui ne sont pas du tout abordés habituellement. Fléo, je crois que tu avais un film à nous parler en 2016 aussi.
Bah, tu parlais justement tout à l'heure de Ken Loach et ses drames sociaux. Il en a sorti deux, durant cette décennie, il a sorti deux films, il me semble, et dont l'un qui est Moi, Daniel Blake, qui est un de ses meilleurs films à mon sens.
Je crois qu'il a gagné la Palme d'Or.
Oui, qui a été récompensé. Et dans ce film-là, en fait, on suit du coup un personnage, Daniel Blake, un homme à la retraite, qui cherche du travail puisqu'il n'a pas les moyens de survivre avec sa pension de retraite, et qui est accompagné du coup par une femme et son enfant qui élève son enfant, sa fille seule, et qui n'a pas les moyens d'accéder aux soins médicaux puisque c'est trop cher, et sachant que en Angleterre c'est privatisé. Donc on voit leur parcours ensemble, qui sont dans les instances de leur équivalent de Pôle emploi. On voit en fait la difficulté que c'est pour un vieil homme comme Daniel Blake de se confronter en fait à l'informatique, puisqu'il n'a plus de conseiller devant lui, il est obligé de faire ça tout par internet, et c'est un homme qui n'a jamais eu à utiliser internet de sa vie, qui cherche du travail par ses propres moyens comme on pouvait le faire à une époque, et qui maintenant se retrouve totalement perdu. À son habitude, Ken Loach continue à nous montrer que la société est injuste, mais que la solidarité peut arranger les choses. C'est en fait cette solidarité entre Daniel Blake et cette femme élevant son enfant seul qui va permettre aux deux de pouvoir survivre. C'est Daniel Blake qui aide cette femme, et c'est cette femme qui en échange aide lui aussi. C'est un bel appel à la solidarité dans la même classe.
Avant de passer à la deuxième partie, on va parler de 2017, 2018 et 2019. On va écouter un morceau de la BO de La Forme de l'eau, qui est sorti en 2017, dont on va vous parler juste après. Et comme c'est une des meilleures BO selon moi de la décennie, ça me paraissait assez évident de la passer. Du coup, bah c'est parti.
Donc, on revient pour vous parler de 2017 et notamment d'un film qui s'appelle 120 bâtons par minute. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait quand même un petit bruit à sa sortie. C'est un film français réalisé par Robin Campillo. Donc, alors, 120 bâtons par minute, ça nous raconte l'histoire d'un groupe, donc Act Up Paris, qui mène des différentes actions pour sensibiliser, des actions parfois choquantes, parce que le sida se propage et qu'à cette époque-là, enfin dans les années 80, le sida, malheureusement, ça concernait surtout la communauté LGBT, bien que ça concernait aussi les hétéros. Hein. Bon, vous savez, les hétéros, ils sont un peu concons, donc ils voulaient pas trop entendre parler. Donc, le film relate de faits, d'événements qui se sont réellement passés, même si le groupe en soi, il me semble qu'il est fictif. Enfin, Act Up Paris existe, mais genre le groupe militants du groupe.
En fait, les personnages sont adaptés de personnes qui ont existé vraiment, mais c'est pas des vraies personnes, c'est totalement fictif.
Donc, on va suivre notamment un des membres, un des militants de cette action, de ce groupe d'action. Donc, on va le suivre tout le long du film, on va suivre leurs actions, on va suivre les différents membres qui vont être touchés ou non par le sida, et notamment le personnage principal qui va malheureusement être victime. Et on va suivre du coup sa descente en enfer au sein de cette maladie. Donc 120 maintenant par minute, c'est un très bon film. C'est un film un peu trash quand même.
Oui, très trash. Ouais.
Voilà, donc très très bon film que je conseille personnellement de voir juste après The Normal Earth, qui parle aussi d'un groupe de création qui milite pour avertir du sida, etc.
Et du coup, t'as parlé de deux films qui m'ont fait chialer énormément. Du coup, je vais parler d'un autre film qui m'a fait beaucoup chialer.
Vas-y.
Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, qui a gagné beaucoup de César, je crois, dont le César la meilleure actrice. Ça parle d'une mère en plein divorce qui essaie de protéger ses deux enfants de leur père violent. C'est un vrai drame français, c'est-à-dire vraiment il y a les codes du drame, etc. Et ça se transforme en thriller au fil du film. Donc l'intensité elle monte vraiment en crescendo et ça fait à peu près autant chialer que 120 bâtons par minute, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. Du coup là je vais parler d'un autre film qui fait pas du tout chialer, mais d'un film d'horreur, un film d'horreur social. C'est Get Out de Jordan Peele. Donc ça parle d'un jeune homme noir qui est en couple avec une jeune fille blanche depuis quelques mois. Il décide d'aller passer un week-end chez les parents de cette jeune fille, mais l'ambiance là-bas, elle est un peu étrange. Le cinéma d'horreur, ça a toujours été engagé. Parfois dans le bon sens, comme Massacre à la tronçonneuse, que certains voient comme une apologie du véganisme, ou dans le mauvais sens, comme La nuit des morts vivants, de George Romero, que certains voient comme étant un film pro-conservateur et anti-communiste. Get Out, ça va dans le bon sens, ça parle de racisme d'une façon plus qu'intelligente. En tout cas, n'oubliez jamais, derrière tous vos films d'horreur préférés, il y a un message politique.
C'est pour ça que j'ai pas de film d'horreur préféré en fait. Moi les films d'horreur ça me fait peur. Voilà. Donc vas-y Morgan, je te laisse enchaîner.
Ouais, du coup on va parler pas d'un film d'horreur mais d'un film de monstre. C'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Ça parle d'une femme muette qui est femme de ménage dans un laboratoire gouvernemental et qui tombe amoureuse d'un homme poisson. C'est très poétique, vous avez entendu la musique juste avant, c'est très doux, très poétique. On pourrait le résumer assez simplement en disant « Mieux vaut être un poisson plutôt qu'être muette ». Léo, je te laisse enchaîner avec 2018 et Black Panther.
C'est vrai que dans ce top de 2010 jusqu'à 2019, on peut être surpris, mais il n'y a pas de film de super-héros. Et on pourrait croire que justement le monde du super-héros, c'est un cinéma en fait totalement dépolitisé, purement divertissant et compagnie. Alors qu'en fait, je pense que les films de super-héros sont intensément politiques. Et Black Panther de Ryan Coogler le montre énormément, en fait. Ce film raconte l'histoire du super-héros qui s'appelle Black Panther, et dont la quête, c'est en fait de se faire accepter en tant que roi de son pays, le Wakanda, et aussi de se faire accepter comme étant le successeur du masque de Black Panther que portait son père auparavant. Il s'est un peu démarqué des autres films de super-héros qu'on a pu voir ces dernières années, puisque le casting est à 99% noir. Il y a deux acteurs blancs dans tout le film. C'est quelque chose d'assez surprenant, en fait, venant d'une production hollywoodienne aussi importante, de voir autant d'acteurs noirs qui ont en fait les rôles les plus importants. Black Panther, c'est aussi un film très politique parce qu'il remet en cause beaucoup de choses. S'il questionne la place des Afro-Américains dans la société américaine. Il ne cherche pas juste à montrer qu'ils sont là, justement, il interroge leurs conditions. Il fait totalement appel en fait, au vol des ressources par les Blancs qu'on a pu retrouver dans la colonisation, mais également dans tout ce qu'on appelle la France-Afrique ou la Chine-Afrique, qui sont les systèmes post-coloniaux, en fait, qui consistent à ce que des entreprises dirigées par des personnes blanches s'accaparent toutes les richesses des pays africains. Et ce film remet totalement en cause cette idée, notamment avec un métal qui ne peut se retrouver que dans le Wakanda. C'est le choix de savoir, c'est est-ce qu'il faut accepter de commercer avec ces entreprises ou alors est-ce qu'il faut lutter contre l'accaparation des richesses.
Donc tant qu'on est sur le racisme, on va également parler de Black Klansman de Spike Lee, donc qui est un film relatant d'un policier noir qui va s'infiltrer au sein du Ku Klux Klan local, inspiré d'une histoire vraie. Donc ce film dénonce bien entendu le racisme, les attouchements du Ku Klux Klan. C'est vrai que ça nous paraît encore assez inimaginable actuellement que le Ku Klux Klan puisse encore exister, qu'il pratique encore certaines choses, mais malgré tout c'est vrai, enfin, on a pu assister à des défilés à des défilés pro-Trump par le Ku Klux Klan, d'ailleurs, que Trump laisse faire. Hein. Voilà, les représentants du Ku Klux Klan, qui sont largement connus dans la scène médiatique, etc., sont là, ils sont pas emprisonnés du tout, alors même qu'on connaît leurs pratiques, même si leurs pratiques sont plus aussi violentes qu'avant, ils gardent les pratiques violentes, des propos violents. Ils se réunissent toujours, ils sont toujours pro-armes à feu, hein, surtout aux États-Unis. Donc dans Black Lake Klansman, on va voir tout ça, même si il me semble que ça se passe quelques années,
dans
les années 70, voilà. Donc c'est, comme je l'ai dit, inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est très intéressant à voir, ça parle de beaucoup de choses. On suit également un groupe noir dedans qui milite pour leur cause, etc., pour, contre la ségrégation, contre le racisme, contre tout ce qui se passe pour mieux se faire accepter dans la société américaine, pour changer les mentalités de la société américaine. Donc on va suivre, d'ailleurs il y a un moment du film où c'est assez magistral parce qu'on voit du coup ce qui se passe, une réunion du Ku Klux Klan en parallèle d'une réunion de ce collectif où ils font un hommage à des victimes, etc. C'est très fort comme ça, c'est très fort comme scène. Donc ce film est absolument magistral, il est réellement à voir, il était à pas louper en 2018, et si vous l'avez pas vu, il est toujours à pas louper maintenant. Je vous le conseille énormément.
Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dedans, on voit dans ce film-là que le racisme, il est aussi provoqué au sein de la même de la police, puisque ce flic noir, il est aussi victime de racisme dans son travail, par ses supérieurs et par ses collègues, qui l'appellent le singe, qui se moquent de lui et de sa couleur de peau.
Comme d'habitude, les keufs sont pas les plus fins, hein, voilà.
Et d'ailleurs, à la fin du film, il démissionne de la police.
À cab.
On enchaîne tout de suite avec 2019, avec un film qui a marqué beaucoup les esprits, qui va sûrement les marquer encore pendant un certain temps, c'est Joker de Todd Phillips. C'est l'histoire d'Arthur Fleck, un homme possédant quelques troubles mentaux. Alors que la ville de Gotham est à feu et à sang pendant une révolte populaire, il va se transformer petit à petit en anti-héros, que vous connaissez tous, et devient la figure de ce mouvement populaire après quelques événements que je vais pas spoiler. C'est un film qui parle de révolte, de bourgeoisie, de lutte et de mépris de classe. Bref, c'est un film qui critique le capitalisme dans sa forme la plus basique, et ça, c'est cool.
D'ailleurs, ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, c'est que c'est la première fois que, même au sein des comics à ma connaissance, que Wayne, le père Wayne, donc le père de Bruce Wayne, il est pas considéré comme un héros. C'est pas un bienfaiteur plein d'argent qui va donner de l'argent pauvre. C'est un immonde connard. C'est un gars qui exploite et qui cherche juste à se faire élire. Il a le plus grand mépris des pauvres. On sort vraiment en fait du côté classique du comics, du riche bienfaiteur.
Donc j'enchaîne sur la suite, tout en restant dans la lutte des classes dans le même thème, et surtout tout en restant en 2019. Parasite de Bong Joon-ho. On en a énormément entendu parler. Il est très difficile à résumer. Je vais vous lire le résumé Wikipédia et vous parler après de mon avis dessus et de ce à quoi je m'attendais, enfin le film que je m'attendais à voir et la surprise que j'ai eue. Donc pour Wikipédia, c'est toute la famille de Ki Taek, père de famille et au chômage. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park, une famille richissime dont le mode de vie est en tout point opposé au leur. C'est le début d'un engrenage incontrôlable. Donc personnellement, quand j'ai lu le résumé du film qu'on m'a proposé d'aller le voir, je m'attendais réellement à un truc très classique entre guillemets d'un gamin qui va chez des bourges, un gamin pauvre qui va chez des bourges, qui aime bien leur mode de vie, etc., et puis une petite critique sociale derrière. Je m'attendais à rien de ouf, surtout que je connaissais pas du tout les films de Bong Joon-ho. Je m'attendais vraiment pas à ça, et finalement dans ce film, ce qui était vraiment génial, déjà tu t'attends pas du tout à ça. Déjà, voilà, tu t'attends pas à ce qui va se passer dans ce film. Ensuite de ça, à chaque fois que tu penses pouvoir prédire ce qui va se passer, tu te trompes. Clairement, le réalisateur, il a 18 coups d'avance sur nous. Donc ça se passe, c'est presque en huis clos, entre guillemets. Ça se passe surtout dans la maison du coup des porcs. C'est super, c'est magnifique, ça m'a réellement retourné la gueule. Et c'est vraiment le film de l'année qui m'a retourné le cerveau, qui m'a retourné la gueule. Je considère totalement que Parasite, on n'a pas encore entendu assez parler pour ce que c'est ce film. Je recommande d'aller le voir au maximum. Donc ça me permet d'enchaîner également sur Les Hirondelles de Kaboul, qui est sorti en 2019 de Zabou Breitman, qui est une adaptation du roman de Yasmina, qui est un grand auteur, et oui, c'est un. Donc ça nous raconte, attendez, c'est de Zabou Breitman et Elea Gobé-Mavelek.
Oui, il y a deux réalisatrices.
Voilà. Donc ça nous raconte, en Afghanistan, les talibans contrôlent le pays. Par accident, lors d'une dispute, Zunera tue son mari. Arrêtée, elle est condamnée à mort. Elle est d'abord insérée dans une prison pour femmes, dont l'un des geôliers est Tatik. Voilà. Donc on va suivre le quotidien d'abord de ce jeune couple qui se rêve devenir l'une artiste, l'autre professeur. Donc c'est un couple qui a pu aller à la fac, etc. Donc son copain le sort, etc. Elle reste majoritairement enfermée parce qu'elle ne veut pas se plier au port de la burqa, etc. On va avoir des scènes d'ailleurs où elle va sortir, elle va se plier à ça. Enfin, c'est très intéressant à voir. Elle va le tuer par accident, elle va en prison. On voit les conditions, le dessin est très cool. Voilà, c'est l'animation de ce film. Donc oui, c'est un film d'animation et très chouette. Je peux pas dire grand chose de plus parce que sinon ça serait spoiler le film, mais il est vachement cool et je pense que c'est un des films d'animation de l'année à pas louper non plus. Donc je vais également enchaîner toujours sur moi sur Lola vers la mer. Alors pareil, c'est pas forcément mon film préféré de 2019, mais il était super, réalisé par Laurent Micheli. Donc Laurent Micheli, qui est un jeune réalisateur et qui est également actif, il me semble, au sein des luttes LGBT. Donc ce film parle de Lola, une jeune femme transgenre qui est sur le point de se faire opérer, donc qui suit un traitement hormonal, etc., voilà, depuis déjà quelques temps, alors qu'elle vit depuis 2 ans dans un foyer à Bruxelles. Bruxelles, hein, je vais me faire embrouiller sinon.
Bruxelles.
À Bruxelles, la mort de sa mère l'a contraint à retrouver son père. Son père qui ne l'accepte pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Alors que sa mère avait fini par l'accepter et lui donner même de l'argent pour sa transition hormonale, etc. Malgré tout ce qui les oppose, ils décident de faire ensemble le chemin vers le littoral, dont vers la maison d'enfance de la mère de Lola, pour disperser ses cendres, voilà, conformément à ses souhaits. Donc clairement, Micheli, le réalisateur, le dit lui-même, il a rien inventé dans ce film, hein. On suit deux personnages qui s'opposent, qui roulent vers un chemin, vers un but ensemble, qui vont apprendre à mieux se connaître, etc. Donc voilà, c'est un synopsis classique. Le sujet ne l'est pas pour autant, par contre, hein, parce qu'on parle très peu des personnes trans dans les films malgré tout. Là, on va en parler très justement, notamment avec une actrice qui est trans. Et oui, et ça c'est vraiment très chouette, parce qu'on a tendance également à faire jouer des personnes, à faire jouer à des acteurs cisgenres des rôles de personnes trans. Et là c'était vraiment très chouette, et pour avoir rencontré du coup Laurent Micheli à Blois, qui était venu présenter le film au Lobbies, il le disait lui-même que pour lui c'était impensable de pas faire jouer Lola par une femme déjà transgenre. Donc c'était un peu compliqué parce que l'actrice, je me souviens plus comment elle s'appelle, c'est Mia Morgan va retrouver, mais l'actrice n'était pas professionnelle, mais pour autant elle a pu apporter quelque chose au film. Ouais, bah ce film est vraiment très très cool, les plans sont très jolis, c'est très bien filmé, la BO est très sympathique, les personnages, enfin le personnage de Lola est très attachant. Son père, qui est joué par Benoît Magimel, qu'on connaît notamment pour beaucoup de prestations, notamment dans La Pianiste par exemple, donc qui est joué par Benoît Magimel. Alors le seul défaut que j'ai trouvé, c'est pas le réalisateur du tout, c'est pas le film, c'est les commentaires qui ont été derrière par des gens. C'est les gens dans la salle, déjà c'était débile, mais au-delà de ça, il y a tout le monde qui a applaudi Benoît Magimel en mode ah, oh, on se rend compte à quel point c'est dur d'être un père de quelqu'un de trans, etc. On suit vraiment, on s'attache à lui. Ah, mais c'est pas tant un connard que ça, finalement, il est nuancé. Non, Benoît Magimel est un enfoiré avec sa fille dans ce film. Clairement, on n'a pas à le pardonner, on n'a pas à s'attacher à lui. C'est un enfoiré. Alors oui, des fois ça se passe mieux. On comprend qu'il a peut-être finalement fini par accepter sa fille comme elle est, mais toujours est-il que c'est un putain d'enfoiré. On n'a pas le personnage n'est pas spécialement nuancé. C'est un connard qui n'accepte pas sa fille depuis très très longtemps.
C'est pas parce qu'un acteur joue bien que c'est forcément quelqu'un de bien dans le film.
Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, enfin, au-delà de l'acteur, les gens, ils étaient vraiment là en mode ah ouais, le personnage est super nuancé, alors que non.
Débile.
Et même finalement, Laurent Micheli disait que son but, ça n'avait pas été qu'on s'attache au père dans le film. Le public, en allant voir un film sur une jeune femme trans, tout ce qu'ils retiennent, c'est le père cisgenre et enfoiré. Et ça, je trouve ça vraiment dingue. Et c'est vrai qu'on se dit que les mentalités sont pas prêtes de changer. Toujours est-il que.
L'actrice, c'est Mia Bollers.
Mia Bollers, voilà, donc qui est en plus une très bonne actrice. Mais donc, toujours est-il que les mentalités sont pas prêtes de changer, mais pour autant, Lola vers la mer, alors c'est pas forcément un film très intéressant d'un point de vue pédagogique pour quelqu'un qui est déjà initié au sujet, mais pour autant c'est un film qui a une vocation pédagogique qui est absolument énorme. On nous explique bien les choses, il présente très bien les choses, il est très beau à voir. Bah, j'ai d'ailleurs une prof de mon lycée qui m'avait dit qu'elle allait acheter en DVD pour le diffuser à sa classe, et ça c'est très chouette. Voilà, donc Lola vers la mer, c'est à voir si vous y connaissez sur le sujet, parce que ça reste un très beau film, et c'est à voir également si vous n'y connaissez pas, parce qu'il est très pédagogique.
Toi, petite adolescente transgenre ou petit adolescent transgenre, si tes parents ne comprennent pas trop, montre-leur ce film. Il y a deux solutions. Soit ils vont comprendre un peu mieux, soit ils vont dire « Benoît Magimel, il est vraiment son personnage, il est trop bien! Il est trop bien son personnage, Benoît Magimel! Il est nuancé !»
Mais c'était ouf, hein, vraiment, c'était atroce.
Bon bah, pour finir ce petit top, je vais parler de mon coup de cœur un peu de 2019 et de la décennie en soi. C'est « Ma vie avec Genevieve Donovan » de Xavier Dolan. 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact que ses lettres ont eu sur leur vie respective. C'est le deuxième Dolan de la liste, et c'est mon préféré de la décennie, comme je l'ai dit plus tôt. C'est vraiment pour moi une synthèse de tout son travail. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Lawrence Anyways, dont j'ai parlé plus tôt, et j'ai retrouvé une scène dans Lawrence Anyways que j'avais déjà vue dans Ma vie avec Janet Donovan, parce qu'en fait, il s'en est inspiré, et vraiment, on a l'impression qu'il a pris tous ses films, qu'il en a fait une sorte de gloubi-boulga, et que ça donne vraiment une sorte de chef-d'œuvre. Ça dénonce tous les travers d'Hollywood, vraiment à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Ça se passe dans les années 90 et en même temps dans les années 2010, un truc comme ça, et ça parle aussi de l'homosexualité qui est toujours mal acceptée à Hollywood. Et ça évoque aussi beaucoup la solitude dans la célébrité.
Donc c'est la fin de notre émission de ce mois-ci. Oui. Elle était peut-être pas très intéressante, mais on avait vraiment envie de la faire parce que déjà on n'avait pas le temps de faire un sujet plus développé. Hein. Voilà, je suis désolé de le dire, hein, je le dis.
Vas-y, c'est à rentrer et tout. Oui.
Ensuite de ça, bah ouais, revenir sur. Enfin, Morgan est un grand fan de cinéma, j'apprécie beaucoup ça. Notre rédacteur en chef aussi. Donc c'était très cool pour nous de faire malgré tout de parler de films qu'on a énormément aimés. Je rappelle qu'on est en pleine grève nationale et que c'est cool d'y participer et qu'on a besoin d'y participer. participer parce que là, ça fait plus d'un mois que ça dure, ça tient bon, et ça, c'est ouf, hein, on pouvait vraiment pas s'y attendre, donc allez dans les rues, à Blois, notamment, il me semble qu'il y a une manif par semaine, à peu près, donc allez-y, réellement, mettez-vous en grève, même si vous pouvez pas aller en manif, mais vraiment, faites-le.
Et ce qui est très important aussi, d'acheter le ravachol de ce mois-ci.
Ça, c'est très important.
Le ravachol de ce mois-ci, justement.
Ça, c'est la nouvelle de l'année, ça, monsieur, ça, je veux.
Donc c'est le numéro qui signe les 3 ans du Ravachol. Voilà le numéro d'anniversaire un peu. Toujours en vente le samedi matin au niveau du Saint-Lubin. Voilà. Et également retrouvable voilà, sur les réseaux sociaux. On peut s'abonner au Ravachol, on peut l'acheter. C'est toujours chouette. Mmh. Si vous vous abonnez, on vous l'enverra par la poste et vous le recevrez directement tous les mois
et
dans votre petite
boîte. C'est pas très cher.
C'est 1 euro. Pourquoi pas en profiter, quoi ?
C'est 1 euro sur place, évidemment. Parce qu'en envoyer, c'est un peu plus cher. Avant de finir et d'écouter That's Life de Frank Sinatra, Shona, j'avais une question parce que... Non, s'il te plaît.
Quoi ? Pas cette fois. Je t'écoute.
Simplement, ok ? Tu cries pas.
Ok.
Je vois pas le rapport du tout avec la Bretagne. Reste là.
Il plaisante.
Shona. Mais Shona revient. Bon bah bonne année et puis à bientôt au mois prochain.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. There's nothing shaking come this here July. I'm gonna roll myself up in a big ball and